pas, ça n'empêchera pas de jouer aux cartes, ça n'empêchera pas de dormir sur l'autoroute, ça n'empêchera pas de parler d'argent, ce sera tout à fait comme à la radio, ce ne sera rien, juste pour faire du bruit. Le silence est atroce, quelque chose est atroce aussi. Entre les deux, c'est la radio, tout juste un peu de bruit pour combler le silence, tout juste un peu de bruit et rien de plus, tout juste un peu de bruit. N'ayez pas peur, ce sera tout à fait comme à la radio. Minutes, des milliers de chats se feront écraser sur les routes. À cette minute, un médecin alcoolique jurera au-dessus du corps d'une jeune fille et il dira : elle ne va pas me claquer entre les doigts, la garce.
Bonsoir, bonsoir. Radio Pleine Lune, 3.8 MHz. Un petit problème technique pour se mettre dans l'ambiance. C'est d'ailleurs comme ça qu'on reconnaît Radio Zone, c'est, vous savez, aux petites erreurs techniques. Non, c'est pas vrai, c'est plus vrai. C'était comme ça à l'époque de d'autres jeunesses. Maintenant, tout va bien et ça irait encore mieux si vous nous aidiez à financer notre belle radio en nous achetant une carte d'auditrice ou d'auditeur. Vous la commandez au 50 40 51 41 023 depuis la Suisse ou vous nous écrivez à Onde Femme Radio Zone. 7 boulevard Karl Vogt, 1205 Genève. Ou alors, ben rien, vous pouvez aussi nous faire d'autres surprises. C'est tout à votre imagination. Dans quelques instants, eh bien, dans quelques instants, les nouvelles, suivies du quart d'heure lesbien de Canicule, le quart d'heure lesbien sur Radio Pleine Lune, et puis beaucoup de musique, et à 20h, un programme sur les femmes en Iran, les femmes du réseau, des femmes vivant sous loi musulmane. Dans tout bientôt, nos nouvelles. Radio Pleine Lune, 93.8 MHz, nos nouvelles. La Suisse a donc signé son accord pour entrer dans l'espace économique européen. Petite porte d'entrée peut-être vers l'Europe. La Suisse se prépare également à voter sur la question de l'entrée ou non, de l'adhésion ou non au Fonds monétaire international. Sur ces questions, sur toutes ces questions, il y a des femmes en Suisse qui réfléchissent. Et c'est entre autres le cas d'une organisation suisse-allemande, Frauenrat für Außenpolitik, le Conseil des femmes pour une politique extérieure, une politique étrangère. Nous avons rencontré Stella Jäger de cette organisation qui nous en parle.
Donc le groupe s'est effectivement créé après un symposium qui s'appelait Aufbruch der Frauen, donc départ des femmes en 87. C'était une année après Tchernobyl. Et là, on avait fait un groupe sur la politique étrangère de la Suisse sous le titre « Politique étrangère neutre, masculine ou féminine ». Et après ça, là, il y avait des femmes des mouvements tiers-mondistes, des mouvements pacifistes, féministes, et des mouvements qui s'occupaient des questions Est-Ouest, comme moi d'ailleurs. Et après, ce groupe de travail avait un grand intérêt, qui m'a d'ailleurs qui m'a frappée, parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de femmes qui s'intéressent à ces questions-là. Et on a décidé de créer un forum pour échanger les expériences que font les femmes dans la politique étrangère, en considérant comme politique étrangère aussi la politique de solidarité que font les femmes, mais en donnant beaucoup d'importance sur le fait que beaucoup de femmes travaillent dans le travail de solidarité. En fait, elles font des travaux de réparation et n'influencent pas sur les structures de la politique extérieure. Et que tous ces lieux officiels où se fait la politique extérieure, des commissions de politique extérieure jusqu'aux ministres de politique extérieure, c'est toujours des hommes qui décident à ce niveau international.
Alors, ça me frappe que tu dises que l'initiative est venue après Tchernobyl. Est-ce que ça voulait dire que, en fait, Tchernobyl, c'est un syndrome aigu de qu'est-ce que c'est qu'une politique menée pour et par les hommes ?
Ben oui, à ce moment-là, il y avait un groupe de femmes autour des Femmes pour la paix à Bâle, surtout, mais aussi à Zurich et Berne, qui se disaient cet événement de Tchernobyl. Ça montre tellement que c'est les femmes qui portent les conséquences de décisions qui ont été faites par les hommes. C'était ça la réflexion à la base, de faire un symposium un peu sous l'aspect que maintenant ça suffit, maintenant nous prenons le pouvoir des décisions nous-mêmes. C'était bien sûr pas le début de toute politique féministe, mais c'était un point où on disait maintenant... on commence à influencer, on n'accepte plus les Sartzwänge, les données qui nous forcent à subir les conséquences de quelque chose que nous n'avons pas décidé avec.
Alors, ce conseil de femmes, c'est en fait un début d'une autre type de structure, d'un autre type de structure politique.
Donc on a essayé de créer une structure souple qui ne soit pas une association comme elle existe déjà avec des assemblées générales, un comité, des délégués, etc. Mais qui est un petit groupe de noyaux qui fait continuellement la politique du groupe et autour des petits groupes de travail qui s'occupent de différents sujets qui ne sont pas forcément présents à toute réunion du groupe noyau, mais qui peuvent s'exprimer au nom du Frauenrat für Außenpolitik aussi. Et c'est comme ça, par exemple, que s'est créé un groupe sur les questions Nord-Sud où les femmes se rencontrent, qui travaillent dans des services d'entraide ou dans des groupes de solidarité avec le tiers-monde, etc., et qui veulent échanger leurs expériences en tant que femmes là-dedans. Ou bien il y avait un groupe sur l'économie mondiale dont est issue toute la campagne contre le FMI. Et puis, nouvellement, il s'est créé un groupe sur la CE. On voulait aussi créer un groupe sur les pays de l'Est, mais on n'a pas réussi, on n'a pas trouvé les femmes qui travaillaient avec. Et au milieu de tout ça, il y a le groupe de projet, on appelle ça, qui se rencontre tous les mois et essaye d'évaluer d'une part la politique de l'ensemble et d'autre part de suivre des sujets qui nous semblent importants pour toute la discussion des féministes sur la question de politique étrangère. Et c'est dans ce groupe de projet que nous organisons chaque année, au début de l'année, en printemps, une rencontre pour toutes celles qui nous soutiennent. C'est à peu près presque 200 femmes qui nous soutiennent, soit par leur travail, soit par des finances. Et là, on fait donc une rencontre où on raconte un peu sur ce qui s'est passé dans le projet. Et d'autre part, on traite d'un sujet. On invite par exemple quelqu'un. Récemment, on a fait avec une Yougoslave qui a raconté la situation en Yougoslavie. Et d'autre part, on organise chaque automne, et ça c'est quelque chose d'ouvert pour tout le monde, pour des femmes d'ailleurs. Donc, sur un sujet qu'on prépare à l'intérieur du groupe de projet. Et c'était la première telle rencontre, on appelle ça forum. C'était sur le FMI avec des invités d'Allemagne. Et le deuxième, c'était sur la CE l'année passée. Et on organise ça comme ça. On fait toujours un travail de préparation, de sorte que les femmes qui viennent au forum soient déjà un peu introduites au sujet. C'est-à-dire on organise une soirée d'information sur les enjeux que pose le dossier. Et on prépare une documentation avec beaucoup d'informations, des articles de journaux, etc.
Alors effectivement, je pense que les deux gros dossiers qui s'annoncent, c'est d'une part la problématique du FMI avec la prochaine votation sur l'adhésion de la Suisse au FMI et puis l'entrée dans l'Europe. Est-ce que la Suisse va faire partie de l'Europe? De qu'est-ce que sera cette Europe? Alors quelle est la position du Conseil des femmes, premièrement sur la question de l'Europe?
Alors sur l'entrée, sur la question spécifique de l'entrée de la Suisse à l'Europe, on n'a pas encore pris de position. On est en train de discuter si c'est vraiment la question là qu'il faut se poser en tant que femme. Tout d'abord, nous voulons voir l'Europe plus large, de ce qu'est l'Europe de la CE. D'autre part, nous pensons que même cette question de l'entrée à la CE nous conduit dans d'autres domaines de discussion de celles que dont nous devrions nous occuper. Par exemple, la migration ou la nouvelle pauvreté, etc. Tout ça, ce sont des questions qui sont rarement discutées à l'intérieur de cette question CE. Donc, si nous nous concentrons maintenant sur la question de l'entrée à la CE, c'est pour thématiser, pour poser publiquement ces questions-là. Et d'autre part, une question qui nous intéresse à l'intérieur de tout ce débat, c'est la question de la démocratie, qui nous semble très importante, parce que nous pensons que l'État national a quand même toujours été le point de repère, le niveau où on peut revendiquer ses droits, et que la CE ne nous propose pas quelque chose de semblable. Donc, sans être nationaliste, on pose le problème de cette perspective-là. D'autre part, ce qu'on essaye de faire, c'est toujours, et ça c'est un des buts du Conseil des femmes pour la politique étrangère, de regrouper, d'essayer de faire un travail de network entre les différents groupes de femmes qui s'occupent de la question. Donc dans notre groupe de travail, il y a aussi des représentantes de la Frauengewerkschaft, du syndicat des femmes, et on essaye de faire une discussion plus large. Et en ce moment, on est en train d'élaborer une prise de position, pas forcément pour dire oui ou non à l'entrée, mais pour récolter un peu les arguments et les dilemmas aussi qui nous concernent.
Tu as parlé, quand je te pose la question de l'entrée de la Suisse à la CE, tu parles de nouvelle pauvreté des femmes. Est-ce que pour toi, ce sont deux notions qui sont liées ou qui, en tout cas, peuvent être liées?
Oui, je crois effectivement que le néolibéralisme, qui est l'idéologie principale de la CE aussi, derrière la CE, aura comme conséquence, entre autres, détérioration de la situation des femmes, dans le sens qu'il y aura beaucoup de femmes qui seront forcées à faire du travail à temps partiel, il y aura beaucoup de femmes qui seront sans emploi, et la situation en général deviendra plus difficile pour les femmes, aussi à cause de la liberté de passer d'un pays à l'autre, qui aura probablement pour conséquence que des femmes resteront seules avec leurs enfants quand leur mari, par exemple, aura une place de travail dans un autre pays. Ça, c'est des spéculations, bien sûr, mais c'est pas par hasard que aussi la coordination européenne des femmes, de ces réseaux qui s'occupent de politiques féministes au niveau de la CE, s'est lancée dans des débats sur la nouvelle pauvreté et essaye de faire quelque chose contre. Il faut toujours voir que la CE est un projet économique qui ne met pas, qui n'a pas sur son programme premièrement et principalement les droits sociaux des hommes et des femmes, dit des femmes, et surtout pas des femmes.
Autre chapitre, l'adhésion de la Suisse au FMI. Et on peut dire... Alors, il y a effectivement un référendum, on va bientôt voter sur la question de l'adhésion de la Suisse au FMI à partir d'un référendum qui est parti de groupes de femmes et sur la question des femmes et des conséquences des politiques du FMI sur les femmes.
Oui, et le Conseil des femmes pour la politique étrangère a joué un rôle là-dedans, parce que justement, je venais de dire, on avait organisé un forum sur le FMI. Si nous avons lancé ce référendum ou avons participé à ce référendum, c'est surtout pour pouvoir discuter publiquement des questions, des répercussions de l'ajustement, c'est l'ajustement ? L'ajustement structurel sur les femmes, sur la situation des femmes au tiers-monde. Et bon, je ne suis pas spécialiste dans la question parce que ce sont d'autres qui sont dans le groupe FMI, mais principalement, on veut faire voir que ces mesures d'ajustement structurel concernent les femmes, parce que si les hommes sont forcés, par exemple, d'aller travailler en ville, d'aller travailler ailleurs, c'est sur les femmes que retombe toute la responsabilité des familles. Et en même temps, si des hommes perdent leur emploi, c'est toujours les femmes qui doivent aller chercher un emploi pour garantir un revenu de la famille. Bon, non, je ne vais pas dire trop là-dessus parce que c'est vraiment pas, j'ai pas toute l'argumentation en tête.
Mais je comprends bien votre volonté, votre désir d'être un forum de discussion, d'élaboration d'idées. Est-ce que vous avez aussi, vous pensez, jouer un rôle au niveau de la prise de décision, d'influencer les structures politiques suisses?
Oui, on essaie bien sûr d'être en contact avec les parlementaires aussi. On espère d'être, peut-être dans 10 ans, d'être une instance qu'on doit aller demander de la part du Conseil fédéral, s'il existe toujours dans 10 ans. On essaie bien sûr d'influencer aussi par une pression publique. Par exemple, on fait des hearings aussi avec les représentants de la politique officielle. On aimerait bien faire un hearing une fois avec M. Ogi ou M. Felber. On se concentre sur cette politique-là aussi. Mais surtout, on veut faire le lien entre les femmes qui discutent de ces thèmes-là.
C'était donc Stella Jäger du Conseil des femmes pour une politique extérieure qui nous parlait entre autres des enjeux tout à fait actuels auxquels sont confrontées la Suisse et les femmes en particulier, l'entrée dans l'Europe et la votation sur le FMI. Mais sur cette question, nous y reviendrons. En ex-Union soviétique, les orphelins traînent dans la rue. Les enfants perdus, petits vagabonds, seraient plus de 10 000 dans la seule fédération de Russie. Ils n'étaient déjà pas gâtés sous le régime communiste. Leur sort tend désormais à s'aggraver. Comment estimer aujourd'hui le nombre de ces petits clochards qui font désormais partie du paysage des grandes villes de l'ex-Union soviétique? Selon le ministère de l'Intérieur, on dénombrait environ 60 000 enfants vagabonds, les Bespitzorniki, dans toute la fédération de Russie, dont 100 000 seulement à Saint-Pétersbourg, 5 000 à Moscou. Mais il faut encore y rajouter quelques 300 000 enfants réfugiés en Russie qui ont fui les conflits interethniques. Certains ont perdu leurs parents ou vivent dans des conditions misérables. Souvent, ils ne sont pas inscrits à l'école. Tous ces enfants sont des clochards en puissance. Avec la disparition du vieux système d'encadrement de la jeunesse, tels les Komsomol ou les pionniers, un vide inquiétant a vu le jour aujourd'hui. De fait, l'unique administration en charge aujourd'hui de ces enfants clochards, comme on les appelle, et la milice, et son dispositif coercitif qui s'est épanoui au temps où le vagabondage est encore considéré par le code pénal russe comme une grave infraction. La milice, par exemple des transports ferroviaires, possède des chambres d'enfants implantées dans toutes les gares de l'ex-URSS. Ce nom poétique désigne en réalité un lieu de détention provisoire pour les mineurs sans papier. Véritable épouvantail pour certains enfants, lieu de routine pour d'autres, le centre d'accueil de Moscou pour mineurs qui est situé à la périphérie. C'est un véritable prison entouré d'un mur hérissé de fils de fer barbelés. Il ressemble à une prison, nom qu'il a d'ailleurs conservé dans le langage populaire. Officiellement, il s'agit pourtant d'un refuge où les enfants vagabonds de 3 à 18 ans doivent dans un délai d'un mois se refaire une santé morale et physique en attendant d'être renvoyés d'où ils viennent. De telles structures existent dans presque toutes les villes de l'ex-Union soviétique. Depuis d'ailleurs la disparition de cet état de l'Union soviétique et la rupture des liens entre les républiques, le temps de détention des enfants vagabonds s'est spectaculairement allongé. Otage de la situation politique, certains croupissent de 6 mois à 1 an dans ces centres d'accueil bondés et sous-équipés. Les établissements de la milice sont en fait des maisons de redressement temporaires. À cette différence près que les enfants n'ont souvent commis qu'un seul délit, avoir des parents violents, alcooliques, morts ou malades. Pire encore, ces victimes sont presque toujours envoyées chez leur bourreau, puisqu'il est souvent impossible ou très long de supprimer le droit des parents ou encore moins de faire condamner un orphelinat qui maltraite ses pensionnaires. En Suisse, et à Genève plus particulièrement, la Chambre d'appel de la juridiction des prud'hommes de Genève a rendu récemment un arrêt novateur en condamnant un employeur à verser son salaire à l'une de ses employées enceintes, bien que cette dernière ait déjà épuisé son droit au salaire en cas de maladie. De plus en plus, dans notre pays, donc en Suisse, comme on le sait, la maternité est encore souvent assimilée à la maladie. Il n'existe pas d'assurance fédérale obligatoire couvrant ces deux risques. De plus en plus, des employeurs concluent des assurances couvrant la perte de gain en cas de maladie, mais fréquemment, ces contrats excluent la maternité. Dans des tels cas, une employée qui doit cesser de travailler pour grossesse ne reçoit son salaire que pendant un temps très limité, variable selon l'ancienneté dans l'entreprise. C'est la fameuse échelle de Berne qui accorde par exemple 3 semaines de salaire pour maladie ou grossesse après une année de service et 6 mois après la 20e année de service. Or, cette aide minimale ne devrait être versée qu'une fois par année. Cela signifie qu'une travailleuse qui, au cours d'une année de service, avait déjà manqué parce que, par exemple, elle a eu un accident ou a été malade, n'a plus droit au salaire si elle doit de nouveau manquer, dans ce cas-là, pour une raison de grossesse. Estimant qu'il s'agissait là d'une inégalité entre hommes et femmes, une travailleuse a demandé en justice que son employeur soit tenu de lui verser une seconde fois le salaire pour la période limitée. La Chambre d'appel a estimé que le législateur avait voulu que la travailleuse bénéficie d'une protection distincte pour la maternité et pour la maladie, c'est-à-dire d'une double protection. Cet arrêt est, sauf erreur, une première en Suisse et il donne espoir que cette situation va pouvoir évoluer. Il faut souhaiter qu'en Suisse soit enfin adoptée une loi sur l'assurance maternité dont le peuple a accepté le principe en votation populaire le 25 novembre 1945. Une étude vient d'être menée à Genève sur le problème des mères adolescentes. Qui sont les mères adolescentes? Elles ont 14, 15, 19 ans. Elles ont, par inconscience, par accident ou parce qu'elles ont décidé, eu un enfant très très jeune. Une recherche a été faite sur presque 1 000 000 d'adolescentes à Genève qui se rendaient au Centre d'information familiale et de régulation des naissances, le CIFERN. Et c'est sur la base de cette recherche qu'un colloque et organisée par les institutions universitaires. Une table ronde est organisée sur ce thème, le comportement sexuel des adolescents. Elle, c'est une table ronde donc publique qui aura lieu le jeudi 7 mai à 20h30 à l'auditoire Génie de l'hôpital cantonal. Le colloque scientifique lui aura lieu le 8 et 9 mai aussi à l'hôpital cantonal. Nous en reparlerons. Elle est sortie, elle est belle, elle est magnifique, elle est presque aussi rose que le fut le 14 juin. C'est le cahier, la brochure qui nous raconte, qui vous ressasse vos rêves, vos histoires, ce qui s'est passé le 14 juin, jour de la grève des femmes à Genève. Si vous ne saviez pas tout, vous le saurez. Si vous saviez tout, mais vous l'avez oublié, vous vous rappellerez. Si vous voulez vous souvenir encore mieux, eh bien, procurez-vous la brochure Fuchsia. Elle n'a de Fuchsia que le nom et des quelques taches de couleurs qui sont données par les photos. Très belle donc ici. Histoire, très belle brochure qui rencontre, qui nous raconte, qui retrace cette journée du 14 juin à Genève. Alors, comment vous la procurez ? Eh bien, elle est en vente dans les librairies, par exemple la librairie L'Inédite à Carouge, la librairie Que faire aux Grottes, la librairie du boulevard à la rue de Carouge, ou sinon vous pouvez la commander en écrivant à Patricia Adler, 27 rue des Lattes, 1217 Mérin, je rappelle, Patricia Adler, 27 rue des Lattes, 1217 Mérin. Je termine en vous donnant quelques petits rendez-vous. Le jeudi 14 mai, vous pouvez rencontrer Magali Quintana. Magali Quintana est une femme qui vient du Nicaragua. Elle fait partie du collectif des femmes de Matagalpa au Nicaragua. Et elle vient nous parler des femmes et du développement au Nicaragua. Ça a lieu à 18h30 à l'Institut des études du développement à la rue Richemont, près de l'angle rue Rothschild. Autre rendez-vous, le congrès du Femmes Féminisme Recherche qui aura lieu du 9 au 10 mai à Fribourg. Voilà. Et puis Contratome qui vous invite à faire une excursion antinucléaire. Et oui, pourquoi pas ? On en parle depuis tellement longtemps de Malville, vous l'avez peut-être jamais vu directement, eh bien, allez-y, allez voir Malville. Vous voyez, ça me fait tousser. Enfin, d'empêcher son excursion nucléaire qui nous guette depuis tant d'années. Faisons donc une excursion, une dernière visite éclair à Superphénix. Ça se passera le 23 mai. Départ à 13h, c'est le samedi. Un bon week-end et je suis sûre qu'on vous aura concocté aussi un petit circuit gastronomique. C'était les nouvelles sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Dans quelques instants, canicule, le quart d'heure lesbien sur Radio Pleine Lune. Et puis à très bientôt. We'll be right back.